La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. L'artiste franco-américaine Louise Bourgeois est célèbre depuis quelques années, en particulier pour ses grandes araignées en bronze, dont l'exemplaire le plus célèbre se trouve sur le parvis de la Fondation Guggenheim à Bilbao. Mais elle a été longtemps méconnue en France, dans le pays qu'il a vu naître et grandir et qui lui a donné en anglais un accent touchant, mais à couper au couteau. C'est sur la fin de sa vie que nous l'avons vraiment découverte ici, alors qu'elle continuait, à 90 ans bien passés, à trouver l'inspiration pour produire encore et toujours de nouvelles œuvres. Cette vie longue, nous l'avons racontée lundi avec sa biographe Marie-Laure Bernadac. Puis mardi, Nadine Satia nous a proposé en quelque sorte une visite virtuelle de l'exposition Louise Bourgeois de 2008 au Centre Pompidou et nous a parlé de son rapport avec d'autres artistes. Enfin demain, Tiphaine Samoyo évoquera les liens qu'elle a tissés entre son enfance et celle de Louise Bourgeois. Les deux femmes ont en effet grandi dans un monde de tisserands. Vous entendrez pourquoi. Et en seconde partie, toujours demain, avec Evelyne Grossman, nous évoquerons le discours psychanalytique que Louise Bourgeois tenait elle-même sur ses œuvres. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour continuer à parler de Louise Bourgeois avec quelqu'un qui l'a connue et analysée, nous sommes en compagnie de Jean Frémont, président directeur général de la Galerie Le Long à Paris et à New York, auteur des livres Louise Bourgeois, Femme Maison, réédité en 2013 aux éditions L'Échoppe, ainsi que de Calme-toi Louis, Lison, chez POL en 2016. Bienvenue à tous dans la Compagnie des œuvres.
J'aime les silences et j'aime la différence entre les silences d'une maison vide, les silences d'une maison pleine, les silences d'une maison heureuse, les silences d'une maison malheureuse. Tous ces silences sont différents. Les silences dépendent aussi du jour et de la nuit et des différentes personnes qui y habitent. Il y a des silences qui sont menaçants et des silences qui sont réconfortants. Les silences qui habitent une maison, quand on attend quelqu'un, alors on épie. Est-ce que la sonnette va sonner ? Est-ce que le téléphone va sonner ? Est-ce que... C'est un silence très chargé. Très chargé, mais quand on aime la personne, on sait que la personne ne va pas vous poser un lapin. On a confiance et alors on aime ce silence. Ce n'est pas un silence angoissé, c'est un silence réceptif et hopeful. Et qui espère. Je ne suis pas méfiante et le sentiment d'attente m'est très, très familier et très cher. C'est un silence très cher, oui. Et alors, si on me pose un lapin, alors il y a une explosion. Alors, ce n'est pas le silence.
En cas de silence, on imagine que Louise Bourgeois, en cas de lapin plutôt, Louise Bourgeois ne devait pas rester silencieuse comme on l'a entendu dans l'extrait de cet entretien avec Monette Berthommier qui date de 1999. Bonjour Jean Frémont.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être ici. Cette voix, ce ton malicieux qui vous faisait sourire doit vous rappeler beaucoup de souvenirs, j'imagine.
Ah, ça me fait plaisir de l'entendre à nouveau, oui, bien sûr. Oui, oui, c'est une voix familière. Et tout de suite d'ailleurs... Vous voyez, dans n'importe quel extrait, j'imagine, qu'on peut diffuser de la voix de Louise Bourgeois, elle est là dans toute sa complexité et son ambivalence. Tout de suite, elle avance des oppositions, vous voyez. Elle dit une chose et puis le contraire, le silence réconfortant, le silence qui fait peur ou qui inquiète. Voilà, ça c'est exactement, rien qu'à sur une petite chose comme ça où elle parle, on est au cœur de sa façon d'être et de... C'est même pas une façon, façon de raisonner, c'est pas une façon de raisonner, elle ressent tout comme ça. Les deux polarités de toute chose.
Donc ça doit être une place assez inconfortable quand on n'est jamais ni sûr d'une chose, ni vraiment sûr de l'autre, quand on ressent en même temps deux choses un petit peu opposées.
Mais voilà, oui, c'est inconfortable. Je crois que toute sa vie, elle a passé son temps dans sa vie et dans son œuvre à aller de l'inconfort au confort ou du confort à l'inconfort, de l'inquiétude au repos, je ne veux pas dire à la quiétude, mais oui, c'est ça qui la faisait vivre et qui nourrit son travail. On le voit sans arrêt. Mm-hmm. Ouais, ouais.
Alors vous l'avez rencontré pour la première fois à New York en 1979.
Oui, je pense, oui, plus ou moins. Oui. C'est ce que je dis, peut-être moi j'ai oublié, mais oui, vous l'avez lu, vous l'avez sans doute raison.
Vous dites aussi que c'était à la Galerie Xavier Fourcade.
Ah oui.
Ça c'est vrai.
Oui.
Et en 1985, vous avez organisé sa première exposition mm-hmm. en Europe. Vous vous souvenez de ce que vous vous êtes dit en 1979 d'abord, et puis après en 1985, cet artiste qui était déjà un petit peu connu aux États-Unis, mais pas encore en France, vous vous êtes dit c'est très différent de ce que j'ai vu jusqu'à présent.
Oui, c'est quelque chose de tout à fait autonome, mais en effet, je la connaissais déjà. Je l'ai rencontré assez vite après. J'ai vu l'exposition à la Galerie Fourcade à New York et je l'ai rencontré peu de temps après. Donc, en 85, je la connaissais déjà depuis 6 ou 7 ans, même plus. J'étais là avec elle en 82 à l'ouverture de son exposition au MoMA à New York. Ça a pris un petit peu de temps pour décider de faire l'exposition à Paris, aussi pour des raisons qui nous sont personnel, la galerie Le Long a pris la suite, je résume, de la galerie Mag, mm-hmm. et donc en 78 c'était galerie Mag encore, Aimé Mag est mort en 81, donc je travaillais moi pour Aimé Mag, et le passage après la mort d'Aimé Mag a été un petit peu compliqué, mm-hmm. donc c'était, voilà, on pouvait pas exposer Louise Bourgeois tout de suite en 80 ou 81 ou 82, même si je l'aurais souhaité.
Pourquoi on n'aurait pas pu l'exposer?
Parce que, à cause de la mort de Mag la galerie a traversé une période un peu compliquée de restructuration.
Donc c'est pas tant lié à l'artiste.
Appelé Galerie Le Long ensuite, parce qu'on a repris.
En tant que tel, c'était pas lié à Louise Bourgeois.
C'était lié à la situation de la galerie à cause de la mort d'Aimé Mag. Mmh. Donc c'est seulement en 85, au fond, qu'on a pu le faire. Mais j'ai travaillé avec elle à la galerie de New York avant de la montrer à Paris.
Mmh. En 1985, il y a donc cette exposition. Résultat, zéro vente.
Aucune. Oui, à peu près. Deux, trois petits trucs, mais pas grand-chose. Oui, oui. Mais elle était en effet complètement inconnue. Et à part qu'elle avait quand même déjà l'amitié et le soutien de Dominique Bozzo, ce qui n'est pas négligeable.
Mais qu'est-ce qu'on disait à l'époque? Alors, on disait cette œuvre n'intéressait pas. Pourquoi? Alors, peut-être qu'on disait rien,
alors,
tout simplement.
Il y a plusieurs facteurs. D'abord, indiscutablement et d'une manière générale, une œuvre de femme était déjà moins regardée. Et de ce point de vue-là, elle a été quand même relativement une pionnière. Elle est la première à avoir une exposition, une rétrospective au MoMA. Avant elle, personne. Mmh. Il y a eu quelques femmes qui ont eu une certaine reconnaissance, Georgia O'Keeffe ou Louise Nevelson ou quelques autres. Joan Mitchell, c'est arrivé bien plus tard. Elle est la première. Mais ce qui montre l'ampleur du désert regardant le travail des femmes auparavant. Alors c'est une des raisons. Et les autres raisons sont corollaires de ça. C'est-à-dire que c'était pas pris très au sérieux. C'était pris pour une espèce de remontée tardive du surréalisme. C'était perçu comme ça.
Pourtant elle-même se considérait comme étant non surréaliste, voire même peut-être anti-surréaliste. Alors, je sais que vous aimez pas trop mettre des mots et des concepts sur les œuvres. Il faut d'abord les regarder, les ressentir. Mais est-ce qu'on peut quand même
éclaircir ? Je
trouve
qu'elle a bien connu à New York beaucoup d'artistes surréalistes. Elle a connu Breton, elle a connu Miro, elle a connu Mata, elle a connu Lam, tous les surréalistes qui se sont installés à New York pendant la guerre. Elle les a fréquentés parce qu'elle était une figure importante de la France à New York, disons, voilà, pour résumer. Donc elle les a tous rencontrés.
Le pèlerinage pour aller la voir.
Ouais. Elle avait évidemment de l'intérêt pour leur travail, mais elle a très bien perçu et compris qu'elle n'allait pas, elle, se situer dans cette lignée, qu'elle est néanmoins intégrée des éléments du surréalisme, c'est pas doutable, des façons de faire. Par exemple, c'est avec Miro peut-être qu'elle avait la relation la plus simple. Et Miro est un excentrique dans le surréalisme. C'est très, au fond, le surréalisme classique en peinture, c'est Dali, Magritte, c'est-à-dire une représentation plus précise, des images très précises. Miro, c'est un surréalisme beaucoup plus rêvé et intériorisé, dans lequel l'autobiographie rentre aussi.
Oui, mais d'une autre manière, d'une manière qu'on pourrait peut-être qualifier de plus colorée, de plus graphique.
Alors, bien sûr.
Où elle est la couleur? Où est le graphisme chez Louise Bourgeois?
Louise a très peu pratiqué la couleur, un petit peu dans des dessins, mais au fond, elle a assez vite abandonné la peinture. Elle a fait quelques peintures dans les années 40, jusqu'à la fin des années 40, et puis elle a vite abandonné la peinture pour la sculpture, et au fond, comme tous les sculpteurs, quand elle dessine, les dessins de sculpteurs sont rarement très colorés. C'est tout, presque toujours du noir et blanc ou un peu de sanguine ou un peu de comme ça comme dans les aquarelles de Rodin, mais c'est pas des travailleurs de la couleur les sculpteurs, même sur papier si je puis dire, voilà.
Donc c'est la forme, c'est l'espace,
oui,
qui compte,
c'est la forme qui compte, oui. Et la forme c'est l'idée, quoi, hein, on peut dire en gros comme ça, la couleur c'est le sentiment et la forme c'est l'idée, et c'est ça qui prend les sculpteurs, comment l'idée dans l'espace, même sur papier.
Donc c'est plus cérébral,
hein.
Alors.
C'est plus cérébral et c'est plus compliqué que la peinture, moi je crois.
Ah. On demandera à des peintres ce qu'ils en pensent.
Plus difficile.
Alors vous avez été le premier à exposer Louise Bourgeois en France, félicitations. Vous avez été le dernier aussi, c'était en novembre 2010. Une exposition un peu spéciale parce que c'était à la maison de Balzac.
Oui, ça c'est une chose assez amusante, c'est que régulièrement, bon, Louise quand on allait la voir, elle parlait comme ça, elle racontait souvent les mêmes histoires, comme tout le monde, comme tous les artistes qui ont tendance à répéter des choses. Et j'avais noté depuis longtemps sa passion pour Eugénie Grandet. Elle parlait toujours de Eugénie Grandet, et elle s'identifiait à Eugénie Grandet. Alors on en parlait, parce que bon, moi, je connais bien Balzac comme beaucoup d'autres choses dans la littérature, enfin que j'aime, et on aimait bien parler de ça ensemble. Et un jour, comme ça, je lui ai dit spontanément, mais pourquoi on fait pas une exposition autour de Eugénie Grandet? Je connaissais le musée, Yves Gagneux, le directeur de la maison de Balzac, qui fait des expositions. J'avais déjà fait une exposition avec lui, avec Alechinski, à la maison de Balzac, et je lui ai dit, mais je suis sûr qu'il serait enchanté. Et au fond, voilà, les choses se sont enclenchées comme ça.
Eugénie Grandet n'a jamais grandi. Mais Eugénie Grandet a dit, je suis assise à la fenêtre. J'ai passé ma vie à faire des rideaux pour cacher les vitres sales. J'ai passé ma vie à faire des rideaux, dotted Swiss, pour surveiller ce qui se passe dans l'immeuble d'en face. Ah. Le vieux gardien a démissionné, il est parti à Seattle après avoir été abandonné par sa femme. Bon, alors elle venait du Cape, de Boston, et lui venait de l'Oregon, c'était à l'autre bout du monde. J'ai passé ma vie à faire la vaisselle. J'ai passé ma vie à laver les légumes. J'ai passé ma vie à monter et à descendre. La maison à 5 étages. J'ai passé ma vie à craindre le froid. J'ai passé ma vie à ravauder, à élargir les tailles, à raccourcir les robes. J'ai passé ma vie à écouter le pépiment des oiseaux, l'eau qui tombe du plafond, et le trafic sur la 20e rue. Le roucoulement des pigeons, les cris des Blue Jays, les hésitations de la souris, et pendant l'été, les abeilles et les mouches.
Compagnie des œuvres sur France Culture. Nous parlons de Louise Bourgeois avec vous, Jean Frémont. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette exposition de la maison de Balzac?
Il y avait un ensemble d'œuvres liées directement Eugénie Grandet, des grandes gouaches qui sont des portraits d'Eugénie Grandet.
Des autoportraits alors, parce que visiblement elle s'identifiait à Eugénie Grandet.
Autoportraits naturellement, oui. Et quelques sculptures, oui. Elle se projetait dans ce personnage. On l'entend très bien dans le texte que vous avez diffusé. Elle parle à la première personne en se prenant pour Eugénie Grandet, et en même temps elle est 20e rue à New York. Et voilà, c'est une espèce de mélange entre sa vie et...
Il faut rappeler que l'héroïne de Balzac, c'est donc la fille de Félix Grandet, un homme qui a fait fortune, mais qui fait croire à sa femme et à sa fille qu'ils ne sont pas riches.
Donc c'est j'ai creusé un petit peu, j'ai fait une préface pour cette exposition.
Voilà, mystère d'une identification. Un petit peu,
voilà, c'est ça. Il y avait un certain nombre de points communs, comme ça, dans leur biographie, dans leur ressentiment. Des relations, en effet, avec un père un peu... Le père de Louise Bourgeois n'était pas avare comme le père Grandet, mais il était précis et il contrôlait l'argent de la famille de manière assez sévère, et notamment l'argent qu'il lui a donné à sa fille. Et puis, il a contrarié un amour de jeunesse, exactement comme dans l'histoire de Eugénie Grandet, elle était amoureuse de son cousin, Louise Bourgeois. Bon, il a empêché que ça se produise, il voulait la marier ailleurs, ça s'est pas passé. Enfin voilà, il y a des points communs. Puis il y a des points communs aussi... La maison chez Balzac est une chose essentielle. Dans presque tous les romans de Balzac, il y a des descriptions des maisons. Et chez Louise Bourgeois, ça prend aussi une place importante. Les sentiments se logent dans la cave, le grenier, selon la théorie de Bachelard, quoi. La maison est le corps dans lequel les sentiments se logent.
Et dans quelle pièce, alors, mettait-elle ces sentiments, parce que vous avez visité la maison new-yorkaise.
Dans toutes, oui, elle m'a, y compris la cave, oui, je suis allé jusqu'à...
Quel était le sentiment caché dans la
cave? Il y avait deux étages de cave. La cave tout au fond était un endroit extraordinaire parce que le sol était en galets, mais des gros galets protubérants, c'est-à-dire qu'il fallait faire attention, on marchait comme sur des galets scellés. Mais on se sentait complètement en déséquilibre. Et puis c'était une pièce suintante. Il y avait toujours de l'eau qui coulait là. C'était un endroit étrange où il y avait la chaudière. Elle m'a emmené là pour me montrer. Ouais.
Plus proche du grenier, il y avait la chambre de son mari. Mm-hmm. Le lit dans lequel il était mort au début des années 70 et qu'elle n'avait, paraît-il, pas touché.
Oui, c'est ce qu'on dit. Ça, je n'y suis allé qu'après sa mort. Cette pièce-là, je ne l'ai pas connue. Je connaissais, j'allais toujours, mais je ne suis jamais entré dans cette pièce de son vivant.
Et son bureau, parce qu'elle avait un atelier, on va peut-être en dire un mot tout à l'heure, mais elle avait aussi un bureau où elle dessinait, je crois, dans cette maison.
Alors, c'était vraiment l'endroit où elle se tenait le plus souvent. Elle avait une petite cuisine. Quand on entrait chez elle, il y avait un couloir, comme ça, qui amenait dans une sorte de grande pièce, living room, avec une fenêtre au fond qui donnait sur un jardin. Et sur le côté, il y avait, sur le devant de la maison, devant la 20e rue, il y avait une petite pièce, dans laquelle elle a fini sa vie. D'ailleurs, elle dormait là, à la fin, parce qu'elle pouvait plus monter à l'étage. Et entre les deux, une petite cuisine. Et la cuisine communiquait avec la pièce principale et elle avait installé une table juste là, de manière... C'était un endroit tout à fait stratégique parce que ça lui permettait... C'est là qu'elle travaillait, c'est là qu'elle recevait. Donc les gens étaient en face d'elle, elle était assise à cette table, mais ça lui permettait éventuellement de se sauver. Elle avait une issue de secours qui était la cuisine derrière elle. Et je l'ai vue s'en servir. Elle fichait le camp quand elle était embarrassée.
Par peur ou par ennui?
Tout. Oui, quand elle savait plus comment affronter une situation, elle se sauvait. Et en tout cas, le simple fait de pouvoir se sauver lui permettait de ne pas avoir à le faire. Ça la rassurait. Mais je suis sûr que cet endroit était très savamment calculé pour lui permettre d'affronter les circonstances de la vie, parce que c'est quelqu'un qui était toujours en... Bon, qui était forte, mais en même temps complètement, qui ressentait tout comme une agression, qui elle-même avait des capacités à agresser les autres. Alors évidemment, quand vous agressez les autres, vous courait le risque d'être agressé en retour. Donc, c'est, oui, sa vie était un petit peu compliquée pour ça.
Ouais. Alors, il y a des photos, hein, on voit ce bureau dont vous parlez, cette pièce, il y a partout des dessins qui sont punaisés.
Oui, il y avait des dessins, des affiches, des invitations, des lettres reçues, toutes sortes de choses. Oui.
Il y a un petit magnétophone aussi, parce qu'elle tenait son journal, alors depuis ses 11 ans, écrit, mais elle tenait aussi un journal parlé. Et on voit ce petit magnétophone,
oui,
vous
oui.
l'avez vu aussi
oui.
peut-être.
Oui, oui, bien sûr. Oui. Le mettait, je ne sais pas si elle, j'ai jamais vu précisément le mettre en marche, mais forcément, oui, elle devait s'en servir pour se remémorer des choses. Oui, oui.
Il y avait des livres aussi, Lévi-Strauss, Foucault.
C'était quelqu'un qui lisait beaucoup. Dans sa bibliothèque, il y a beaucoup de choses. Elle est préservée. Hein, son assistante Géry a maintenant répertorié tous les livres. C'est quelqu'un qui était très cultivé, qui lisait beaucoup en français et en anglais. Et en effet, notamment notamment des choses comme ça, Foucault, Lévi-Strauss, mais pas du tout. Elle lisait Françoise Sagan aussi. Mm-hmm. Elle lisait Proust, elle lisait Balzac, elle lisait Baudelaire, elle lisait
la France surtout alors.
Oui, mais elle lisait en anglais aussi. Oui, oui, elle lisait pas mal. Elle lisait Susan Sontag ou elle lisait. Enfin, vous voyez, c'est quelqu'un qui avait une vraie culture, oui.
Les matériaux ont suivi le chemin pas à pas de l'espace dont je disposais. Et aujourd'hui, dans cet atelier qui est très grand et que j'aime beaucoup ici, j'emploie des matériaux différents. Et alors, en fin de compte, le dernier atelier qu'on peut avoir, c'est quand on n'en a pas d'autre, c'est de travailler dehors. C'est pourquoi, au début, je travaillais sur le toit, parce que c'était le seul accès que j'avais au open air, de l'espace. Sur le toit des maisons à New York, il y a un grand récipient dans lequel l'eau de pluie converge. Et ces constructions en bois étaient faites avec un certain bois qui venait de la Californie et qui s'appelait de Redwood. Et qui avait une certaine forme, comme ça. Et je les récupérais et je m'en suis beaucoup servi. Bon, une des raisons, c'est que ça sentait très bon. Ça sentait le juniper, ça sentait le sapin. Et j'ai beaucoup de mes statues qui étaient faites en ce bois-là, et que j'en ai encore dans l'atelier ici. Je suis arrivée en Amérique. Mon mari habitait dans deux pièces. Ben, je ne pouvais pas faire de la sculpture monumentale dans deux pièces. Le fait est que le premier jour que je suis arrivée, j'ai fait des dessins. Puis après, nous avons grandi, la famille a grandi et l'espace, les appartements ont grandi. Par conséquent, j'ai fait des choses plus grandes. Et aujourd'hui, je suis très fière de la taille de mon atelier, qui me permet de tout faire, sauf de la sculpture monumentale de plein vent, de dehors. Et nous avons ce problème aujourd'hui d'un travail qui est très grand, qui s'appelle le Toussum, qui était à Pompidou, et que je ne peux pas confier à quelqu'un qui ne peut pas l'abriter. Ce n'est pas une pièce d'extérieur. Les araignées sont faites de façon à ce qu'elles puissent être dehors. Parce qu'à ce moment-là, on touche l'architecture, vous comprenez? Mais l'architecture est différente, parce que l'architecture est containers. L'architecture est une œuvre qui contient des choses. Tandis que moi, je fais des choses qui sont contenues.
Avec vous aujourd'hui, on est vraiment dans les lieux Jean Frémont. On parle de New York avec sur les toits des immeubles ces réservoirs d'eau qui lui servaient pour ses œuvres. On parle de sa maison, on parle de son atelier de Brooklyn que vous avez aussi connu,
ah, bien
évidemment.
Sûr, oui, c'était un endroit incroyable parce que elle a eu ça relativement tard, dans les années 80. Mais elle y a transféré évidemment toute son œuvre, et comme elle avait pratiquement pas vendu grand chose, quand j'y suis allé pour les premières fois, il y avait toute son œuvre depuis les années 40 qui était là. Les personnages en bois dont elle parle, qu'elle faisait sur le toit, À ce moment-là, ils étaient encore là en 80. Ils étaient d'ailleurs même dans notre exposition en 85. Les œuvres de comme ça des années 45, 6, 7.
Donc l'architecture, ça existe quand même dans l'esprit de Louise Bourgeois. Vous avez appelé l'un de vos livres Louise Bourgeois, femme maison. Mais est-ce que la maison, pour Louise Bourgeois, c'est uniquement sensible ou est-ce que l'architecture, c'est aussi autre chose pour elle?
Ah, l'architecture est un phénomène qui l'intéressait beaucoup, certainement en partie dans son œuvre, comme tout ce qui l'intéresse, elle l'intègre dans son œuvre, mais pas seulement. Je me souviens par exemple qu'à un moment donné, elle s'est intéressée de près aux œuvres de Ledoux, et c'était à une époque où elle venait plus du tout en France, et elle m'a demandé de prendre pour elle des photos
de rotondes,
de différentes choses de Ledoux à Paris et ailleurs, ce que j'ai fait. Elle en a, à mon avis, pas rien tiré dans son travail, parce que c'est pas venu, mais elle avait quelque chose en tête. Elle, d'un seul coup, elle s'intéressait à... Et c'est un intérêt qui remonte loin, parce que je crois me souvenir que son cousin Jacques, dont elle était justement amoureuse quand elle était jeune fille, est devenu architecte et qu'elle a partagé avec lui beaucoup de cet intérêt pour l'architecture. Dans l'œuvre, évidemment, il y a la maison à différents degrés, mais c'est une maison rêvée et fantasmée, c'est encore autre chose. Mais enfin, bien sûr, il y a quand même une composante architecturale là-dedans.
Elle vous avait demandé, justement, de prendre des photos de sa maison d'enfance à Choisy.
Oui.
Vous avez envoyé en mission.
Oui.
Et vous avez lamentablement échoué.
Absolument, lamentablement échoué. Mais pire que ça, j'ai échoué sur deux tableaux. J'ai échoué à prendre les photos parce que la maison n'existait plus. Mais j'ai aussi échoué... à comprendre ce qu'elle voulait, parce que naïvement, je me souviens très bien, elle avait, quand elle m'en a parlé, elle avait fait une œuvre, une espèce de reconstruction de mémoire, et d'après quelques photos qu'elle avait, de sa maison de Choisy. Je l'ai vue, elle était là et on en parlait. Et elle se posait des questions sur un angle, un aspect de la maison dont elle se souvenait pas, elle voulait savoir comment c'était. Et moi, naïvement, je lui dis, mais ça n'a pas d'importance, vous la faites comme vous la rêvez, comme vous la pensez. Et elle s'est mise en colère, mais vous n'avez rien compris, il faut que ce soit absolument exact. Et je comprends très bien ça. Les deux choses sont vraies, bien sûr que ça n'a pas besoin d'être complètement exact. Mais un artiste a besoin de savoir s'il ne se trompe pas complètement pour pouvoir faire autre chose s'il le décide et s'il le veut, quand il le voudra. Mais l'inquiétude de savoir si, de ne pas savoir comment c'était alors que c'est la question qu'on se pose, c'est insupportable. Mmh. Et c'était ça qui la tenaillait. Elle voulait avoir la réponse. Elle ne l'a pas eu parce que la maison n'existait pas.
Elle a envoyé d'autres émissaires, hein, je crois.
Oui, oui, Maki Xenakis aussi. Oui,
elle répondit évidemment.
Oui, elle en parlait à tout. Quand elle a une obsession, à ce moment-là, elle en parlait à tout le monde. Maki était à New York aussi dans ce moment-là. Donc,
il paraît que c'était une obsessionnelle. Hein. Son père disait, le monde est divisé en deux. Il y a les obsessionnels d'un côté et les hystériques de l'autre.
Voilà.
Sauf moi, semblait-il dire, qui ne suis ni l'un ni l'autre. Je suis parfaitement sain, disait le père de Louise Bourgeois. C'était une obsessionnelle alors?
Je crois que n'importe quel artiste est obsessionnel de son travail, en tout cas. Hein, je veux dire, j'étais l'autre jour avec David Hockney, on en parlait tout à l'heure. Il me disait quand je peins pas, je pense à ce que j'ai peint et à ce que je vais peindre, et rien de bien n'a jamais été fait autrement. Il faut ne penser qu'à ça. Et c'est exactement le cas de Louise Bourgeois. Elle ne pensait qu'à ça. Donc, quand elle envoyait quelqu'un en mission, c'était en effet pour avoir une réponse qui lui serve à son travail.
Notre invitée de lundi dernier, Marie-Laure Bernadac, a eu un mot sur cette question de l'architecture, des maisons, de la maison de Choisy. Elle dit « Femme maison, deux points, mélange d'architecture et de chair ». C'est ça aussi que vous avez voulu dire dans le livre Louise Bourgeois,
c'est
femme maison.
Le géométrique et l'organique, oui, c'est ça. C'est aussi fondamentalement un problème de sculpteur. Le croisement du géométrique et de l'organique, quoi, et du pensé et du senti. Enfin, et chez Louise Bourgeois, on est en plein là-dedans, notamment dans un des extraits que vous avez cité tout à l'heure. Elle dit j'utilise toutes sortes de matériaux. Dans ces différents matériaux, elle a expérimenté tout ça avec les matériaux mous, avec les choses informelles comme ça, la résine.
Elle est allée vers de plus en plus de matériaux mous.
Oui.
C'est aussi
à une certaine période. Elle est revenue après. C'est plutôt dans les années 50-60 qu'elle était. Avec les choses qui coulent comme ça.
Oui. Et c'était pour expérimenter aussi une forme de douceur un petit peu.
Oui, le masculin et le féminin, enfin, toutes ces oppositions. Je ne sais pas si c'était rigoureusement conscient ou calculé, d'ailleurs, mais enfin, comme par hasard, c'est à peu près contemporain de ce que faisait César avec les expansions, et vous voyez, c'est dans les mêmes, dans les mêmes années.
Pour chasser, séduire, négocier avec la pierre, c'est vraiment avoir affaire à une résistance énorme. Comment va-t-on s'y prendre pour contourner l'obstacle et faire en sorte que la pierre dise ce qu'on veut, alors qu'elle n'est là que pour opposer son non à tout ? Elle interdit tout. On désire un trou, elle refuse de se laisser percer. On veut qu'elle soit lisse, elle se brise sous le marteau. C'est la pierre qui est agressive. C'est une source constante de refus. Il faut gagner la forme, c'est une lutte à mort de chaque instant. Gaston Bachelard expliquait cela en disant que ce qui doit être dit est si difficile et si douloureux qu'il faut en quelque sorte l'extirper hors de soi comme on taille la matière, comme on le fait dans un matériau d'une grande, d'une extrême dureté. J'ai lu Gaston Bachelard à plus de 75 ans. Par le passé, à chaque fois qu'on me questionnait sur les matériaux, j'avais l'habitude de répondre « Ce qui m'intéresse, c'est ce que je veux dire » et je lutterai avec n'importe quel matériau pour exprimer d'une façon satisfaisante ce que je veux dire. Mais du matériau naissent toujours des solutions en forme d'expédients. Finalement, on en trouve un qui convient. Et il s'agit en général des matières les plus malléables, le plomb, le plâtre, les matériaux plastiques. C'est-à-dire qu'on commence avec les matériaux les plus résistants et que la vie vous apprend qu'il vaut mieux, pour pouvoir se mettre au boulot, se contenter de choses plus douces, de voix plus calmes.
Des œuvres sur France Culture. Jean Frémond, ces sculptures dont nous parlait à l'instant en archive Louise Bourgeois, elle les montrait facilement, je crois, tous les dimanches dans sa maison où défilaient un certain nombre d'artistes ou d'aspirants artistes. Et vous-même, vous avez eu l'occasion plusieurs fois d'y aller.
Oui, bien sûr. Alors, le dimanche, on ne peut pas dire qu'elle montrait les œuvres parce que ça se passait dans la maison, dans le salon, pas à Brooklyn. C'est d'ailleurs à une époque où elle n'allait pratiquement déjà plus à Brooklyn. Donc non, elle ne montrait pas ses œuvres à l'occasion des dimanches, mais elle recevait les gens qui voulaient la voir. C'était un petit rituel qui a été intéressant au début et puis qui a, à mon avis, un petit peu dégénéré à la fin. D'abord parce qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient la voir, qui déversaient sur elle leurs propres angoisses ou difficultés.
N'importe qui pouvait venir, il suffisait de frapper à la porte.
Oui, non, il fallait prendre rendez-vous. À la fin, il fallait. Au début, c'était une réunion d'amis au fond. Voilà. Des gens qui venaient la voir. Au fond, elle essayait de se protéger dans la semaine pour travailler. Et de réserver le dimanche pour voir ses amis et s'occuper un peu, parce que c'est le jour où son assistante Géry n'était pas là, et il était toujours un peu perdu quand Géry n'était pas là. Bon, alors il y avait un petit rituel comme ça. Bon. Et puis petit à petit, ça s'est transformé en effet en salon, en audience comme ça de la grande artiste que tout le monde voulait connaître. Et elle jouait un petit peu le rôle d'une maîtresse d'école, comme ça, donnant la parole aux uns aux autres, les torturant un petit peu. Alors, qu'est-ce que vous faites? Expliquez-nous un petit peu. Et puis, comme les gens étaient un peu souvent impressionnés, ils bafouillaient un peu, alors elle les torturait encore un peu.
Bon, les gens, vous nous dites là, ça a pu vous arriver à vous aussi, je crois, parce que à un moment comme ça, elle vous lance, alors que vous n'avez rien demandé. Et maintenant, Jean Frémond va nous lire quelque chose.
Oui, elle m'a fait ce coup-là.
C'était le genre de choses qu'elle faisait.
Oui, oui, exactement. Bon, bah voilà. Voilà, j'ai bafouillé, en effet. Évidemment, j'avais rien apporté à lire. Puis je suis pas comme ça, je suis pas quelqu'un qui apporte des choses à lire dans les. Je venais la voir, je venais pas parler de moi. Mais en effet, je l'entends encore me dire, mais qu'est-ce qu'il bafouille?
Et Géry, alors, celui qui ressemblait à Jésus-Christ, qui était son assistant, vous l'avez connu aussi, vous le connaissez encore?
Bien sûr, je le connais encore, je l'ai vu il y a pas longtemps. Il était à Paris quand on a installé une plaque Boulevard Saint-Germain, sur la maison où Louise est née, il y a quelques mois. Géry, je l'ai très bien connu parce que je l'ai employé à la galerie Le Long à New York. Et donc, Mais je l'ai connu même un peu avant, parce que quand j'ai rencontré Louise, il n'était pas encore notre employé. Et puis il est devenu, en effet, l'assistant sans lequel Louise ne pouvait rien faire. Enfin, il a été absolument essentiel et déterminant dans sa carrière. Hein. Il a joué un rôle considérable.
Donc, elle l'attendait tous les jours. Elle se pendait un peu à son bras. On le voit dans certains films documentaires. Ouais. De temps en temps, il fallait faire un moulage d'un corps d'homme. Donc, elle faisait le moulage du corps de Jerry.
Absolument.
Il a tout donné à Louise Bourgeois, alors.
Écoutez, c'est une relation, là aussi, très, très complexe, qui a évolué dans le temps, d'ailleurs, vraisemblablement. Je ne connais pas tout, mais manifestement, il s'est créé, en tout cas, au bout de quelques années, une relation très, très, très intime entre eux. Enfin, il y avait une très grande affection et une dépendance mutuelle.
Il faut se regarder comme on est. Et quand on se regarde comme on est et que l'on s'aime bien, on s'accepte, alors le silence est dissous et la personne peut commencer à entrer dans un dialogue. Les choses n'ont pas besoin d'être noires et blanches. Les choses sont beaucoup plus intéressantes si elles sont grises et si elles sont subtiles. Moi, je veux inventer quelque chose. Je veux inventer une écriture et des signes. Je veux inventer des signes. L'histoire ne m'intéresse pas. Moi, j'en ai par-dessus la tête de l'histoire et de la tradition. Toutes ces idées qui viennent, il faut les attraper comme des mouches quand elles passent. Et puis alors, qu'est-ce qu'on fait des papillons? Qu'est-ce qu'on fait des mouches? Eh bien, on les conserve et puis quand on est prêt, on s'en sert. Ce sont des idées bleues, des idées roses, des idées qui passent. Et puis alors, d'un dessin, on en fait une peinture et de la peinture, on en fait des sculptures parce que les sculptures, c'est vraiment la seule chose qui me libère. C'est-à-dire, c'est une réalité plus grande, c'est une réalité tangible. Peut-être ce qu'il y aurait de mieux que la sculpture, ce serait des vraies personnes. Vous comprenez? Non. De rencontrer de vraies personnes, de parler à de vraies personnes, de s'adresser à de vraies personnes. C'est-à-dire d'introduire des visiteurs dans les maisons vides.
Qu'est-ce qui vous frappe, Jean Frémond, dans cet extrait d'entretien de Louise Bourgeois avec Monette Berthommier, qui date de 1999?
Plusieurs choses, les maisons vides, mais aussi inventer des formes, inventer, c'est clair, c'est ça qu'elle cherche, inventer des choses réelles, inventer des choses dans lesquelles elle est. C'est, en effet, c'est comme d'inventer la forme dans le bloc de pierre. C'est la discussion philosophique classique de la sculpture. Est-ce que la forme est là et qu'il suffit de la dévoiler? Non, elle est dans la tête, bien sûr.
Il faut se regarder comme on est. C'est comme ça qu'elle commence cette archive. Il y a beaucoup d'yeux chez Louise Bourgeois.
Oui, c'est exact. Oui.
Donc le regard, c'est le propre de l'artiste plastique. Mais elle, en plus, elle représente des yeux.
Oui. C'est vrai, oui. Parce qu'elle est très soucieuse aussi du regard des autres. C'est quelqu'un aussi qui se sentait, je ne sais pas, quelqu'un d'inquiet. Donc, en effet, dans sa représentation des yeux, on sent des regards qui épient, qui jugent.
Il y a Bald Eagle, 1986, White Eyes, Pink Eyes, Velvet Eyes, en 1984. Et il y a aussi un rapport qui est plus un rapport avec la cécité dans son œuvre. Je crois que vous évoquez dans votre livre, si je me souviens bien, je ne sais plus dans lequel des deux c'est, des photos de Louise Bourgeois avec son père et sa mère, où il joue
à l'aveugle. L'avenir
par la main et elle joue à l'aveugle. Est-ce que c'est un thème que vous voyez, ça, ou pas?
Non, je vois pas trop la cécité. Il y a eu ce jeu et des photos qui en effet évoquent le tableau de Bruegel et elle en a fait une sculpture majeure dans son travail qui s'appelle The Blind Leading the Blind. Mais je vois pas vraiment apparaître la cécité comme thème ailleurs. Mais le regard, oui. Constamment. Vous avez cité un certain nombre de sculptures, mais il y a des yeux présents dans les dessins aussi énormément. Et puis il y a toutes sortes de formes qui, par certains côtés, peuvent être assimilés à des yeux ou à d'autres choses. Des formes sphériques avec une sorte de paupières autour, mais ça peut être des yeux, ça peut être des sexes, ça peut être... voilà.
Les deux à la fois.
Les deux à la fois, bien sûr.
Ça ferait sens pour elle de jouer sur cette ambiguïté-là?
Mais elle jouait sur, comme on l'a dit à plusieurs reprises, elle jouait sur toutes les ambiguïtés et elle détestait qu'on ait une lecture. Parce que si on lui disait « Ah oui, ça c'est ça », elle vous répliquait aussi tôt que ça pouvait aussi bien être autre chose ou le contraire.
Alors le travail de Louise Bourgeois, c'est aussi, on l'a vu d'ailleurs lundi avec Marie-Laure Bernadac, le travail sur les souvenirs. Elle mêle en permanence le passé, le présent, le biographique, le formel, le symbole, le fantastique. Vous aussi, vous l'avez repéré dans les deux livres que vous lui avez consacrés. C'est quelque chose qui vous touche en particulier, Jean Frémond ?
Oui, bien sûr. Alors les deux livres sont très différent. Hein. Le Louise Bourgeois, Femme Maison, est une sorte de chronique où je raconte un peu ce que j'ai vu et entendu au fur et à mesure des visites que j'ai faites sur toutes ces années. L'autre, Calme-toi, Lison, est un livre de fiction. C'est une sorte de portrait imaginaire.
C'est un monologue ?
C'est un monologue et c'est elle qui est censée parler. Mais au fond, je pensais à ça en entendant l'extrait que vous avez cité à propos de Jenny Grandet. Elle part de Jenny Grandet en disant « je ». Moi, je fais parler Louise Bourgeois qui se dit « tu » à elle-même, mais c'est évidemment moi qui l'écris. C'est un peu du même ordre, quoi. C'est une entreprise de je sais pas quoi, de ventriloquisme ou de phagocytage et d'invention. Il s'agit d'inventer. Dans ce livre, je n'ai pas cherché à raconter sa vie. Il y a des épisodes que j'invente. Il y a beaucoup d'épisodes dont, à l'évidence, je n'ai pas pu être témoin.
Mais vous avez cherché quoi en écrivant ce livre, alors ?
À la faire vivre.
À la faire revivre ?
Oui. À la faire vivre pour moi. Oui, à trouver un rythme plutôt qu'autre chose. Une palpitation, le rythme de sa voix, par exemple. Le ton et le rythme sur lequel elle parlait.
Oui, parce qu'on a l'impression que vous avez écrit sous la dictée. Que vous l'entendiez dans votre tête et que vous avez simplement retranscrit.
C'est ce que j'ai essayé de faire. Oui. C'est pour ça aussi que j'ai essayé de le garder court. C'est un petit livre. Parce que c'est une chose qui n'est pas tenable sur une grande durée.
J'étais aux Beaux-Arts, à l'âge de, après le lycée, de 20 ans. 20 ans. Et alors, je faisais le dessin du modèle, qui ce jour-là était un modèle masculin. Ouais. Et pendant que je faisais mes croquis, tout d'un coup, le modèle a eu une érection. Et ça, j'étais renversée. Ça a été aux Beaux-Arts, ça a été ma plus grande surprise. Et alors, je me suis dit, c'est triste d'être vulnérable, vous savez, à ce point-là, devant tout le monde, comme ça. Il a dû être embarrassé, quand même. And I felt sorry for him. J'ai compati, je trouvais que c'était... Il pensait peut-être que nous étions cruels, ou nous allions être cruels, ou nous allions rire, vous comprenez, ou quelque chose, et ça m'a embarrassée. Je trouvais que c'était très triste, et je ne savais pas que les hommes étaient vulnérables. Moi, je ne savais pas qu'on pouvait faire du mal, qu'on pouvait faire de la peine à un homme, ça m'était jamais venu à l'idée. Jamais. Mais enfin, on va à l'école pour apprendre, alors j'ai appris ça.
La compagnie des œuvres sur France Culture, et c'était Louise Bourgeois qu'on entendait ici parler de ce qu'on apprend à l'école. Jean Frémond, on apprend ça, que les hommes sont aussi fragiles d'une certaine façon.
Elle savait très bien jouer les fausses naïves aussi, comme vous voyez.
Oui, hein. On a l'impression qu'elle sait que tout le monde comprend qu'elle joue un jeu, non, vous ne croyez pas ?
Oui, non, mais elle était loin d'être dénuée d'humour aussi, hein, de sous-entendu, on entend bien qu'elle... Oui, c'est amusant.
C'est là où il faut parler, je crois, de fillette. on a déjà un petit peu évoqué au cours de cette série.
À propos de l'érection du modèle. De...
Ça, on en a déjà parlé lundi parce que tout le monde veut raconter cette histoire. C'est vrai qu'elle est assez drôle.
Non, mais on peut parler de fillette à ce propos. Parce
mais justement, que alors parlons de fillette. Voilà. Il faut que vous décriviez, parce que c'est un exercice difficile à la radio, cette sculpture, Jean Frémond.
Alors, cette sculpture, elle était présente dans l'exposition que j'ai faite en 85. Elle était là, suspendue, à l'entrée de la galerie.
Vous aviez beaucoup de commentaires sur cette sculpture.
C'est, il y a eu pas mal de commentaires, oui. C'est une œuvre qui mesure, quoi, peut-être 70 centimètres, quelque chose comme ça, qui, bon, à première vue, est un phallus en érection et deux testicules dessous. À première vue, parce que c'est pas si simple, c'est pas ça du tout d'une manière réaliste. C'est là aussi complètement inventé. Et alors cette œuvre, elle a eu toute une histoire, notamment grâce à la photo de Mapplethorpe. Ouais. Mapplethorpe l'avait invité Louise à venir poser chez lui pour faire un portrait. Et bien, c'était bien avant, c'était avant l'exposition du MoMA, en tout cas, avant 82. Je sais plus la date exacte de la photo, mais on peut le retrouver. Et Louise était un peu inquiète, elle raconte ça quelque part, ça la troublait, ça l'embarrassait cette histoire, et elle cherchait une présence rassurante, au fond. Et elle est arrivée chez Mapplethorpe avec cet objet sous le bras.
Oui, c'est très rassurant. Hein.
On peut, oui, sans doute.
On peut se défendre avec...
Oui. Mais alors elle s'en explique de ça, elle explique aussi que cette forme est une forme qui requiert sa protection, qu'elle a envie, à laquelle elle a envie de faire du bien.
Et oui. En effet, sur la photo, donc, elle berce cet objet, et vous, vous y voyez finalement une sorte de vierge à l'enfant dans mais cette photo-là.
Oui, mais je crois même, je ne sais pas si c'est moi qui vois ça ou qu'elle l'a exprimé comme ça, mais en effet, elle porte un enfant, puis alors elle l'a baptisé Fillette, ce qui est, alors voilà, encore une fois, une ambivalence et une contradiction apparente, très très claire. Et elle en prend soin comme d'un bébé, oui. Elle le porte. Enfin, on porte pas les bébés sous le bras comme ça.
Comme mais, une baguette, plutôt.
Oui.
Baguette française,
plutôt comme une baguette, oui. Mais en tout cas, oui, c'est, elle le décrit comme un objet, dont elle a envie de prendre soin affectueusement.
Ça lui rappelait peut-être aussi les tout petits sexes qu'elle devait découper dans les
alors ça, oui, c'est une autre histoire. Oui. Les amateurs de tapisseries que ses parents vendaient souhaitaient souvent que les organes génitaux qu'on voyait, qui n'étaient pas cachés à l'époque, disparaissent.
Surtout les Américains.
Les acheteurs américains, voilà. Et donc, elle était chargée de... Louise, enfant ou adolescente, était chargée de les remplacer par des motifs floraux ou des fruits ou des choses comme ça, qu'elle dessinait et qui étaient tissés dans l'atelier de ses parents et cousus à la place des... Voilà, de l'objet du délit.
Oui. Et ça rappelle, dites-vous, la collection d'antiquités de Freud qu'un magazine américain lui avait demandé de commenter.
Oui, je sais plus, c'est dans Art Forum ou je sais plus. Oui,
c'est ça.
Freud avait des... J'ai vu ça, on les voit encore dans la maison de Freud à Vienne, des objets grecs ou... Chypre, des petites statuettes, des choses comme ça, et on dit qu'il les manipulait pour réfléchir, au fond. Ça lui servait de... Je sais pas,
d'objet...
Fixation.
Alors, je sais pas très bien si on peut dire...
D'objet rituel.
Voilà, enfin, objet rituel, c'est
oui,
bien.
Oui. Alors, je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est quelque chose qui a intrigué Louise Bourgeois, évidemment. Or, ce sont des choses qui se passent, ça aussi, dans la création. Il y a des tensions qui se trouvent dans des objets et un artiste peut avoir envie de les sentir, de les comprendre pour formuler mieux une pensée.
C'est intéressant que vous parliez des objets rituels parce que on peut dire aussi un mot sur le rapport à l'ancestral qu'il y a chez Louise Bourgeois, et peut-être que ces objets aussi qu'elle a sculptés étaient des objets rituels qui lui rappelaient un temps d'avant la chrétienté, par
alors,
exemple.
Chez elle, il y avait plusieurs choses. Il y avait son attitude d'exilée, au fond, et elle avait toujours présente en tête ce rapport avec la France qu'elle avait quittée, avec sa famille, etc. Mais plus généralement, il y a un autre facteur qui compte, qui est très important, c'est que son mari était le premier et le grand spécialiste de l'art primitif et des relations entre l'art primitif et l'art contemporain, et que c'est quelque chose qui est donc, grâce à son mari, elle connaissait très très bien. Son fils Jean-Louis est devenu aussi ethnologue et s'est penché, a fait des travaux chez les Dogon, enfin, etc. C'est des choses qu'elle suivait et qu'elle connaissait très bien et qui, très spontanément et très naturellement, ont aussi nourri son travail de sculpteur, évidemment.
Et vous pensez que son mari, de manière générale, l'a beaucoup influencé, parce que c'est quand même à son contact qu'elle s'est développée.
Alors moi, je n'ai connu Louise qu'après le décès de son mari, donc je ne sais que ce qu'elle a pu m'en dire ou ce que j'ai pu lire. Que je sache, il l'a en tout cas beaucoup protégée. Il lui a permis de travailler, il l'a aidée. Il respectait beaucoup son travail, et, au moins ça.
Hein. C'est beaucoup.
C'est beaucoup, oui. Néanmoins, elle se sentait quand même la responsabilité d'une mère de famille. Elle était très occupée par ça. Et à l'évidence, son œuvre a vraiment décollé sur tous les plans quand elle s'est trouvée seule. Mais il se trouve qu'elle a été veuve assez jeune. Et elle a eu une carrière très longue, donc elle a vécu une quarantaine d'années après la mort de son mari. C'est beaucoup.
Il y a une œuvre qu'on n'a pas encore évoquée dans cette série qui pourtant est importante, c'est celle qu'elle a appelée l'arc hystérique, où on voit...
Alors c'est l'arc de l'hystérie.
Ou l'arc de l'hystérie, pardonnez-moi.
C'est le corps de Jerry.
Ah oui, c'est le corps de Jerry. Alors racontez-nous, décrivez-la.
C'est le corps de Jerry, oui. Ça, je pense que ça vient d'elle. Elle a lu Charcot, elle s'intéressait, elle a lu des livres sur l'hystérie, l'histoire de l'hystérie en France dans ces années-là. Et c'est quelque chose qui l'intéressait beaucoup. Il y a quelque chose, évidemment, il y a une idée sculpturale, là, la tension du corps qui est pris dans une crise, d'une crampe comme ça.
Parce qu'en fait, c'est un corps qui est soutenu par le ventre.
Alors l'œuvre, c'est en effet un corps de grandeur naturelle, c'est le corps de Jerry sans tête, qui est dans un arc comme ça, c'est-à-dire le ventre en l'air, les jambes et la tête et les bras vers le bas, tendu vers le haut. Ce qui est une position, moi je suis pas médecin, j'y connais rien, mais...
Ça n'a pas l'air très confortable.
Je crois que c'est une des positions dans lesquelles l'hystérie se manifeste. Les médecins connaissent ça, enfin, ont toujours décrit ça comme l'arc de l'hystérie. Alors elle a voulu transposer cet événement qui survient au corps sujet à l'hystérie dans une œuvre, dans une sculpture. Parce que c'est un événement essentiellement sculptural, au fond.
C'est une convulsion.
C'est une convulsion.
On ne sait pas si c'est de la jouissance ou si c'est, au contraire, une douleur très très intense.
Alors, voilà. Bon, ça, c'est moi qui, dans le livre, me mets dans sa tête et pose cette question. Mais elle en parlait, j'ai entendu, ça l'intéressait de savoir qu'est-ce qui se passait dans le corps à ce moment-là. Oui, oui, bien sûr. Parce que c'est aussi un phénomène qu'on retrouve dans les extases des saintes, vous voyez, dans les phénomènes comme ça où le corps est dépassé par l'émotion.
Merci beaucoup, Jean Frémond.
La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
On termine cette émission comme chaque jour avec En Compagnie des revues et en compagnie aujourd'hui du magazine L'Œil avec son rédacteur en chef qui nous fait le plaisir de nous rendre visite, Fabien Simode, bonjour.
Bonjour.
Alors le magazine L'Œil consacre sa couverture aux très nombreuses expositions de la rentrée.
Et oui, c'est un véritable phénomène de société. De plus en plus nombreuses depuis les années 80, les expositions sont devenues le cœur de l'activité des musées. À tel point que, comme pour la littérature, elles ont leur saisonnalité. Pendant que l'automne voit déferler une avalanche d'ouvrages estampillés rentrée littéraire, les musées, eux, vernissent leurs expositions labellisées expositions de la rentrée. Et cette année, la rentrée est exceptionnelle. Dans le magazine d'Art L'Œil, nous recensons ce mois-ci une cinquantaine d'expositions qu'il ne faut absolument pas manquer de voir cet automne. Rien que cette semaine, les auditeurs ont le choix entre plusieurs affiches, dont du douanier Rousseau à Séraphine, les grands maîtres de l'art naïf au musée Mayol, Mondrian figuratif au musée Marmottan-Monet et Francis Bacon au centre Pompidou. Alors, je ne m'attarderai pas sur Bacon, à qui vous consacrerez bientôt une série d'émissions dans la Compagnie des œuvres. Quelques mots en revanche sur Mondrian. C'est un petit bijou, moins de 70 œuvres, dont la moitié de chefs-d'œuvre. Piet Mondrian, vous savez, c'est ce pionnier de l'abstraction qui, au début du XXe siècle, a peint des tableaux composés d'aplats géométriques de couleurs rouges, rouge, bleu et jaune. Et bien là, le musée Marmottan nous dévoile un autre Mondrian peu connu, un Mondrian figuratif peignant des femmes, des moulins et même des fleurs dans lesquelles on mesure l'influence de Vincent van Gogh. Cette exposition pleine de lumière et de couleurs fait autant de bien aux yeux qu'à l'esprit. C'est pourquoi je vous la recommande chaudement.
Oui, on va y aller. Et puis, on attend aussi, évidemment, Fabien, la grande exposition Léonard de Vinci.
Ben oui, vous avez raison, Mathieu. C'est l'événement de l'année, peut-être même de la décennie. L'exposition Vinci ouvrira le 24 octobre au Louvre. Alors, attention, elle ne sera accessible que sur réservation en ligne. Car le musée du Louvre attend une affluence record, l'exposition n'ayant pas eu d'équivalent à Paris depuis 1952. C'est véritablement le premier accrochage qui a l'ambition de raconter la vie de Léonard à travers plus de 163 œuvres, essentiellement des dessins et des manuscrits, le corpus de Vinci comportant moins d'une vingtaine de peintures authentifiées. Ceux qui n'auront pas la chance de voir cette exposition pourront toujours se rabattre sur les rétrospectives très attendues de Toulouse-Lautrec et du Gréco au Grand Palais. Il faut savoir, entre parenthèses, qu'il s'agit là aussi de la première grande exposition en France du Gréco.
On parlera aussi du Gréco.
En dehors de Paris, la programmation n'est pas moins alléchante avec une exposition Goya et ses élèves à Agen, une rétrospective du peintre Vladimir Velikovitch qui vient de nous quitter en Bretagne, ainsi qu'une exposition Charlie Chaplin et les avant-gardes à Nantes.
Donc des expositions absolument partout. Est-ce que ça n'est pas sans poser quelques problèmes tout de même, Fabien, toutes ces expositions?
Oui, des problèmes d'ordre écologique. Dans une enquête signée Isabelle Manca que nous publions donc ce mois-ci dans L'Œil, ce mois-ci, nous mesurons le bilan carbone des expositions. Et ce bilan n'est globalement pas bon. La Bibliothèque nationale, par exemple, chiffrait en 2007 les déchets liés à sa programmation à 16 tonnes, car la scénographie, les cimaises et les vitrines terminent le plus souvent à la benne. Chaque année, c'est l'équivalent de plusieurs forêts suédoises qui passent dans les expositions. Mais le volet le plus prodigue, nous dit Isabelle Manca, en matière de rejet de CO2, reste le transport, car le succès d'une exposition dépend de quoi ? Eh bien, de sa capacité à rassembler le plus grand nombre de pièces, si possible venues de très loin. Prenons l'exemple de l'exposition Toulouse-Lautrec. Plus de 200 œuvres seront réunies au Grand Palais. Quelle chance ! C'est vrai. Sauf que si beaucoup de tableaux appartiennent aux collections françaises, un grand nombre d'œuvres viendra de Chicago, Moscou, Sao Paulo, Copenhague, Budapest. Même chose pour l'exposition Bacon, au centre Pompidou, dont la moitié des œuvres a fait le voyage depuis l'Australie, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Suisse, etc. Et devinez comment elle voyage, ces œuvres ? Eh bien, en avion, ce qui n'est pas le moyen de transport le plus écologique. Alors, le tableau n'est pas tout noir et le dossier de l'œil fait mention d'initiatives qui, des musées de Strasbourg à ceux de la ville de Paris, témoignent d'un début de prise de conscience. Mais ces initiatives sont encore trop rares et montrent que les musées doivent faire leur révolution écologique.
Et nous, on doit planter un arbre avant d'aller voir chacune des expositions qu'on souhaite visiter. Merci beaucoup, Fabien. C'était La Compagnie des œuvres, une émission de Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Hélène Rivière et Déborah Dagobert. Demain, dernier épisode de notre série Louise Bourgeois, nous parlerons du rapport de l'artiste avec cet artisanat d'art qu'est la tapisserie. Nous serons pour ce faire en compagnie de Tiphaine Samoyau. Nous parlerons aussi du discours psychanalytique chez Louise Bourgeois. Je rappelle les deux livres de Jean Frémont, mon invité d'aujourd'hui, Calme-toi, lisons chez POL et Louise Bourgeois, femme maison, à l'échoppe en 2013.